Bonsoir. Alors, nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Christine Orban, qui a bravé les grèves pour venir pour nous
C'est
rejoindre.
vrai.
Vraiment, ça a été un périple. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par une petite présentation protocolaire. Alors, ça a été un peu difficile de. Enfin, même c'est absolument impossible de retenir tous les faits saillants de votre vie parce que j'ai l'impression que vous avez fait 100 000 choses. Alors, en gros, dans les grandes lignes, vous êtes né à Casablanca, donc au Maroc. Vous avez donc grandi au Maroc et vous avez d'ailleurs sillonné le continent africain avec votre père. Vous avez été championne du Maroc de dressage et de concours complet d'équitation.
Junior, hein? Junior.
Junior. D'ailleurs, c'est plus facile de dresser des chevaux ou de dresser
Ah,
des moules.
c'est pas du rodéo, hein?
Oui.
C'est dressage, c'est haute école. Les cavaliers qui sont là sauront ce que c'est que le dressage.
On imagine, oui. Vous avez fait également des études de droit. Vous êtes arrivé à un niveau assez élevé. Vous avez failli exercer. Sauf que vous avez eu vos premiers amours, ou en tout cas vos premiers émois, qui sont revenus au grand jour avec la psychanalyse et la littérature. Puis finalement, vous avez tout laissé tomber pour vous consacrer à l'écriture. Vous avez publié votre premier roman en 1986, un roman intitulé Les petites filles ne meurent jamais, qui sera suivi, alors vous êtes extrêmement prolifique, d'une vingtaine d'autres, parmi lesquels J'étais l'origine du monde. Personnellement, j'aime beaucoup ce titre. La mélancolie du dimanche, en 2004. Ça aussi, j'aime beaucoup. C'est assez évocateur de ce qu'on connaît tous. N'oublie pas d'être heureuse, en 2009. Pour les titres, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur et chevalier des arts et des lettres. Vous êtes également critique littéraire, dramaturge. Vous exposez également des collages. Et aujourd'hui, donc, vous revenez en. Alors, excusez-moi du jeu de mots, je pense qu'on a déjà dû vous le faire à peu près une centaine de fois, en osant Joséphine. Alors, plus exactement, c'est Marie-Joseph Rose Tacheur de la Pagerie, plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais. Alors, c'est amusant parce que cette année, justement, on célèbre le bicentenaire de sa mort.
Et je vous assure que je ne le savais pas. C'était vraiment une surprise. Quand je suis sortie de chez moi, j'ai vu des affiches partout. Et je croyais que c'était mon éditeur. Je me suis dit, il est devenu fou. Et pas du tout, c'était le bicentenaire. Mais voyez, on avait rendez-vous avec Joséphine.
Et d'ailleurs, oui, il y a une exposition que vous avez visitée
Oui,
au
au
musée du
Luxembourg.
Luxembourg.
Oui. J'ai même emmené des libraires aussi.
Ah oui.
La visite, j'ai fait le guide. Oui.
Et justement, enfin, avant de préparer ce livre, vous avez fait un travail de documentation assez phénoménal. On peut voir à la fin une bibliographie. Alors, en plus, qui est sommaire, parce qu'apparemment, ça représente qu'une petite partie de tout ce que vous avez.
Oui, il y a aussi des documents. Et c'est pourtant un roman, mais on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai mis roman, parce que je me permets d'incarner Joséphine, de dire je et de m'adresser à Bonaparte, ce qui était mon rêve depuis longtemps. J'avais un petit compte à régler avec Napoléon. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lui écrire. Donc voilà, j'ai pris la femme qui était la plus proche de lui, la femme qu'il a adorée, et j'ai endossé son rôle, malgré la répudiation, et je lui ai écrit.
Et justement, pourquoi cet intérêt pour Joséphine? Pourquoi, par exemple, pas sur Napoléon ou qu'est-ce que ça dit sur elle?
Je pense que je sais mieux être Joséphine que Napoléon quand même. Mais c'est évidemment comme beaucoup d'êtres humains, je suis fascinée par Bonaparte. Faut imaginer qu'il y a un livre et demi qui sort sur Bonaparte par jour dans le monde. Peut-être que cette histoire a commencé à cause des livres d'histoire à l'école, ce portrait de David, probablement un portrait de propagande, où il montre du doigt le chemin à suivre, où il est sur son cheval. Tout le monde imagine, je pense, cette peinture sur son cheval gris, rouanné. Et c'est l'image du héros, de la force, En cela, la probacante était réussie. Et donc, dans l'imagination d'une petite fille, ça a commencé enfin, j'ai commencé à y songer. Assez jeune, je me suis dit, je connaissais très peu de l'histoire avec Joséphine, mais je trouvais que répudier une femme, ça, c'était assez odieux parce qu'elle était stérile et j'avais envie de lui dire ce que je pense.
Et pourquoi justement avoir choisi cette forme de la correspondance ?
En fait, c'est une longue lettre. C'est Joséphine, avant de mourir, enfin, quand elle est exilée à la Malmaison, écrit à Bonaparte, ce qu'elle faisait peu. Hein, il lui écrivait beaucoup plus qu'elle ne lui écrivait. Et j'ai choisi cette forme et la première personne parce que c'est la forme de la proximité. En fait, j'avais écrit dans une première version ce livre à la troisième personne. Et en le relisant, je sentais que j'avais pas eu le courage d'aller assez loin dans ce qu'elle ressentait, dans ce que j'imaginais qu'elle avait ressenti, et qu'il fallait oser la première personne. Yourcenar, quand elle a fini les mémoires d'Adrien, avait écrit comme note qu'elle avait choisi aussi la première personne. J'ai lu ses notes sur les mémoires d'Adrien, évidemment, après. Je ne les connaissais pas, parce qu'elle ne voulait pas d'intermédiaire entre Adrien et elle. Même pas elle-même, dit-elle. Moi, je serai là de temps en temps quand même.
Et est-ce que vous aviez déjà votre avis, ou en tout cas, vous saviez ce que vous pouvez penser d'elle avant même d'avoir écrit ce livre, mais est-ce qu'au fur et à mesure de cette écriture, vous avez eu tout autre avis ?
J'avais un peu, comme la plupart des gens connaissent mal Joséphine, on dit qu'elle était futile, qu'elle était légère, qu'elle a trompé Bonaparte. Bon, voilà, je savais comme tout le monde. D'ailleurs, dans des signatures, il y a des messieurs qui viennent presque m'engueuler pour me dire « Mais vous vous rendez compte, vous faites un portrait plutôt positif d'une femme qui a cocufié Bonaparte. » Alors,
c'est dit, c'est
je
dans
suis
les
pour
sens.
Rien juré. Mais j'ai voulu comprendre, en fait, pourquoi cette image. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait trois Joséphines. Il y avait celle d'après la Terreur, et comme beaucoup de personnes qui avaient échappé à la guillotine, ils ont subi cette vague de libertinage. Ils ont eu besoin de se prouver qu'ils étaient vivants. Et Joséphine, c'était une femme très sensuelle, ça passait sûrement par le corps. Et puis Bonaparte est parti très vite, hein. On part pas 3 jours à peine mariée en campagne. Moi, je pense qu'elle a trompé l'absence plus que l'absent. Elle était traumatisée par l'absence. Son premier mari l'avait déjà grandement trompée. Et donc, elle était probablement plus une femme fragile, une femme seule. Elle s'est retrouvée seule avec des enfants, traumatisée par la guillotine. Donc ça, c'est la première Joséphine. La seconde, c'est l'impératrice qui va être sous le joug de Bonaparte, qui ne le serait pas si c'est difficile de résister à cet homme, à ses injonctions. Et quand il la répudiera, il lui dira « Je veux que vous soyez contente, je veux que vous dormez », comme si c'était suffisait d'appuyer sur un bouton. Et la troisième, c'est celle qui va être elle-même. Elle dira « J'ai été impératrice une fois répudiée et je serai enfin moi-même ». Et c'est celle qui m'a semblé le plus intéressante, parce qu'elle va oser être elle-même et elle va oser aussi, chose qui n'est pas si facile finalement, continuer à aimer l'homme qui l'a répudié, qui l'a humilié aussi devant la belle famille, qui ne l'aimait pas beaucoup, qui l'appelait la vieille. Et elle était bienveillante aussi, c'est ça que j'ai bien aimé chez cette femme. Et là, sa bienveillance auprès de Bonaparte va prendre toute son ampleur.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une femme, on va dire d'un certain côté, qui est bien ancrée dans son époque par rapport à ce qu'elle est obligée de subir, par rapport à sa condition. Elle doit absolument enfanter. Et finalement, on se rend compte également que c'est une femme moderne, actuelle, finalement, qui peut traverser le temps. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que le chagrin d'amour, qu'on soit impératrice ou pas, reste le même. Et en cela, elle est proche, et lui aussi, devoir se séparer d'une femme en l'aimant. Je pense que les souffrances qu'ils ont traversées en cela sont actuelles. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas besoin d'un descendant, mais que lui a hésité quand même plusieurs années, 13 ans. Il est probable qu'elle ait été stérile à cause de l'échafaud. C'est une femme qui a manqué d'être décapitée. Et c'est pas un petit traumatisme. Son mari a été décapité, son premier mari, Alexandre de Beauharnais. Et la règle, c'était que quand un des deux conjoints était décapité, l'autre y passait dans les 15 jours. Donc c'était son tour. Et elle a entendu son nom prononcé par les bourreaux. Et elle s'est évanouie devant l'échafaud. Elle a eu de la chance, d'ailleurs on l'a nommée la bonne étoile de Bonaparte, puisqu'elle a été sauvée par la chute de Robespierre. Quand elle s'est évanouie, un médecin passé par là, elle a dit « vous n'allez pas décapiter une femme évanouie, laissez-moi quelques jours pour la remettre en forme, si je puis dire ». Et donc elle a été sauvée. Je ne sais plus ce que vous m'aviez posé, pardon, comme question, c'était... Puis j'ai dû m'en évader.
Oui, c'est pas grave, c'est au fil de l'eau, c'est très bien. Bon. alors pourquoi avoir choisi cet épisode-là de la répudiation pour raconter Joséphine ? Est-ce qu'on n'avait pas eu la tentation à un moment de raconter un autre fait ? Parce que Joséphine, c'est quelqu'un aussi qui a apporté beaucoup de choses par la suite. Déjà, quel est l'héritage de Joséphine.
J'ai voulu de même commencer le livre par la répudiation. Oui. Parce que c'est une scène assez forte et pour une romancière comme moi, c'est presque un cadeau. Je suis obligée, évidemment, de respecter l'histoire, mais là, l'histoire me laisse pas mal de vide historique, parce qu'il n'y a que les mémoires du valet de chambre, de Bossé, qui était derrière la porte et qui a entendu un hurlement et le bruit d'un effondrement. Et à part ça, on ne sait pas grand-chose, sauf qu'on a la chance d'avoir beaucoup de mémoires de contemporains, la fille de Joséphine, la reine Hortense, Mademoiselle Avrillon, sa femme de chambre, ses amis, Madame Rémusat, tout le monde a écrit. Et elle s'est un peu confiée, elle était très digne, mais tout de même, les gens racontent après, avant, ce qui s'est passé. Donc, j'avais très envie de reconstituer. Et j'ai un projet, je ne sais pas si je vais m'y atteler, mais c'est d'écrire une pièce de théâtre qui serait ce dîner-là entre Bonaparte et Joséphine, quand il va la répudier. C'est tout ce qui se passe entre ces deux êtres est évidemment très fort, la peur qu'elle a avant, l'espoir qu'elle a, que peut-être qu'il la convoque pour la gronder parce qu'elle a encore dépensé trop d'argent, ce qu'elle peut imaginer comme réplique, qu'est-ce que je vais lui dire, elle disait que Marie-Antoinette dépensait quand même plus qu'elle, enfin elle est là, elle se dit comment je vais m'en sortir, et lui dès qu'il la voit, ça on le sait aussi, il lui a dit pas de larmes et pas trop de rose à joue, parce qu'à chaque fois, le pauvre homme craque. Dès qu'elle pleure, ça fait 13 ans ou de temps en temps, et en tout cas tout de suite après qu'elle l'ait trompée, il voulait divorcer, mais elle a pleuré, elle a ajouté à ses larmes celles de ses enfants, et tous les trois, à chaque fois, le font changer d'avis. Et puis le rose à joue, les coquetteries de Joséphine, qui étaient très grandes, et pas seulement futiles, comme on en fera trop souvent le procès, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a 6 années de plus que lui, à l'époque c'est beaucoup, 6 années de plus, et qu'elle est toujours dans l'inquiétude devant cet homme couvert de gloire, et y a tellement de monde qui se jette à ses pieds, elle est toujours dans l'inquiétude de le perdre. enfin pas au début, mais après. Ils vont un peu se croiser en cela aussi. Bon, ça arrive. Mmh. Il est plus passionné qu'elle au début et elle va le rejoindre un peu tard. Mais enfin, mais ils s'aimeront toujours. Mais la passion n'aura pas lieu en même temps.
Par rapport à l'âge, vous précisez justement en plus qu'il triche dessus pour oui. que ça passe mieux.
Le jour ouais. du mariage, lui, très galant, va se vieillir de 2 ou 3 ans et elle va se rejeunir de 2 ou 3 ans. Donc, parce que lui n'a que 26 ans le jour du mariage, elle a 6 années de plus, c'est beaucoup. Mmh. Et il a 26 ans, mais il a conscience de son avenir, puisqu'il fera graver dans ses alliances au destin, point d'exclamation. Il faut tout de même, à 26 ans, quand on est un jeune et petit général, encore sans gloire, écrire au destin comme si il s'emparait de sa destinée.
Oui, vous parliez aussi, juste avant, je voudrais juste revenir sur l'image fausse ou en tout cas trompeuse qu'on peut avoir d'elle sur sa futilité. Il faut savoir qu'elle a été très importante, notamment en botanique.
Oui.
Il y a beaucoup de plantes qui ont été beaucoup. Découvertes et conservées grâce à elle.
Elle était passionnée de botanique. Aussi, elle élevait des animaux rares à la Malmaison.
Oui.
Elle faisait venir des plantes de Martinique. Elle collectionnait. Elle collectionnait des contemporains de l'époque. Elle recevait, elle avait fait un salon de musique. Elle jouait dans la harpe. Elle lisait. Donc,
humaniste par excellence.
Et elle intervenait énormément pour les gens dans le besoin. Comme elle connaissait évidemment les ministres, elle leur écrivait toujours. Elle passait sa matinée à écrire, à demander une augmentation pour le jardinier, même à demander le rétablissement du café pour le personnel, parce que par mesure d'économie, Bonaparte, de temps en temps, ça lui prenait, avait supprimé les cafés. Et aussi, elle lui disait, c'est pas possible, parce qu'il aimait pas beaucoup tous les courtisans. Les courtisans l'énervaient, l'agaçaient. Alors, il avait, pour les embêter, c'est l'inventeur du ticket restaurant. Il s'est dit, tous ces profiteurs, je vais leur faire... Il devait donner un ticket restaurant. Et un jour, on refuse un café à la reine Hortense parce qu'elle n'avait pas son ticket restaurant. Alors là, Joséphine déboulait dans le bureau de Bonaparte en disant, mais c'est pas possible d'instaurer le ticket restaurant pour Madame Rémusat. Et donc, ça le faisait rire, ce genre de choses. Ce qui est assez amusant, c'est que ce génie de la guerre avait plusieurs vies et savait être, comme dit Guénifet, un bourgeois du 19e quand il rentrait chez lui, mettre ses pantoufles, écouter les conversations entre Hortense et sa mère, s'y intéresser, s'occuper de l'économie et de la maison, des histoires domestiques.
Oui, un génie de la guerre, puis en même temps, on sent dans l'intimité que c'est. On voit toutes ses faiblesses finalement. Enfin, on a l'impression que. Oui, il subit parfois sa condition plus qu'autre chose, même s'il a cherché d'une certaine façon.
Ses faiblesses, c'est souvent, au fond. Quelles sont ses faiblesses? Il n'en a pas tant que
Je
ça.
Je parle de Napoléon, mais c'est également le cas de Joséphine. Hein.
Ouais, elle en a plus quand même.
Plus,
mais lui aime les gens contents autour de lui. Il dira souvent « je vous veux content », puis il est très généreux. Et sa faiblesse, qui est une grande force, c'est peut-être de garder comme ministre des gens qui le trahiront. Et il le savait, mais il pensait que c'était les meilleurs et qu'il vaut mieux. Il était assez fort pour s'entourer de Talleyrand, de Fouché, qui il savait qu'il les trahirait.
Oui, c'est dingue. Enfin, je suis en train de réaliser que, comme quoi, le Napoléon, c'est vraiment un sujet romanesque qui englobe, Joséphine, tout ce qu'il a pu accomplir. D'ailleurs, vous placez en cette épitaphe au début de votre livre, tirée de Les Orientales de Victor Hugo. Toujours lui partout, où brûle ou glace, où brûlante ou glacée, son image toujours ébranle ma pensée. Il verse à mon esprit le souffle créateur. Le créateur, c'est également non seulement Hugo, mais également tous les auteurs comme vous qui ont pu s'approprier son image ou de ce qui a pu s'approcher de lui.
C'est vrai, on est beaucoup à être fascinés par Bonaparte. La chose nouvelle, c'est difficile d'innover dans ce sujet, évidemment, mais on parle moins de Joséphine après la répudiation.
Oui.
Parce qu'en effet, une fois que Bonaparte la rejette, elle intéresse moins. Alors que leur histoire d'amour continue, que c'est le moment où elle va se montrer très grande. Dans le Marie-Antoinette de Zweig, Zweig analyse très bien ce moment où une personne reçoit une gifle du destin, où Marie-Antoinette est giflée par le destin. Aux Tuileries, quand elle prend conscience que la révolution est là, sous son balcon. Et au même endroit, Joséphine, avec une gifle d'un ordre totalement différent, puisque c'est Bonaparte, finalement, la répudiant, qui lui donnera cette gifle, prend conscience aussi de sa vie. Et Zweig dit « Personne n'est transformé, ne devient un autre. » Marie-Antoinette, comme Joséphine, a toujours été courageuse. Et seulement, il y a une espèce d'endormissement dans cette espèce de vie où elles sont trop gâtées et elles ne peuvent pas sortir le meilleur d'elles-mêmes. Et Joséphine, comme Marie-Antoinette, quand le destin lui fera aussi mal, va devenir quelqu'un d'assez exceptionnel, ne serait-ce que avec Bonaparte, puisque elle aura souvent les couples divorcés se chamaillent ou se détestent, ou elle voudra voir Marie-Louise, c'est Marie-Louise qui sera jalouse d'elle. Elle voudra voir leur enfant. Et quand elle le rencontre, elle dit je comprends pourquoi je me suis sacrifiée. Elle devient quelqu'un d'assez estimable.
Et en même temps, vous avez passé beaucoup de temps donc, avec ce personnage. Combien de temps l'écriture de ce roman, ça vous a pris combien de temps? La documentation et le travail d'écriture.
J'ai eu une bonne année de lecture en prenant des notes. Et une fois que j'avais compris à peu près, enfin en tout cas ma compréhension des personnages, j'ai pu écrire en peut-être 5 mois, 6 mois. Il y a une phrase de Yourcenar, toujours à la fin d'Adrien, dans les notes que j'ai découvert, qui dit que quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière, mais c'est déjà beaucoup de n'utiliser que des pierres authentiques. Et au fond, c'est ce que j'ai fait. Les pierres sont authentiques. Je me dis, ah oui, juste, c'est bien, ouf. Mais je me suis permise de les jouer presque, oui. Comme une actrice, de jouer le rôle de Joséphine. Et j'avais lu dans une interview d'Isabelle Huppert où elle disait que parfois, pour jouer une actrice, il fallait qu'elle puise en elle-même dans ce qu'elle avait vécu. Et je me suis rendu compte que pendant que j'écrivais, pour traduire les mots de la douleur amoureuse, j'avais dû chercher moi-même, réveiller des chagrins d'amour pour trouver le juste vocabulaire. Et en cela, ça devient assez dangereux. D'ailleurs, à un moment donné, je plongeais dans une sorte de mélancolie. Alors je me disais, mais ce n'est pas la mienne, celle de Joséphine. Mais on était devenus, comment dirais-je, comme si on ne faisait plus qu'une au moment où je m'adressais à Bonaparte. Et c'était en même temps la seule façon d'écrire ce livre avec cette proximité-là.
Oui, je me rappelle de belles pages justement que vous avez écrites où Joséphine se demande justement ce qu'est cette sorte de mélancolie qui la touche, alors que voilà, on sait que tout ce qui est la psychanalyse n'existait pas encore à l'époque. Et voilà, elle se pose la question, elle dit mais non, c'est ridicule, ça n'existe pas. Enfin, on sent que vous avez un attrait assez naturel vers ce type de sujet. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans la plupart de vos romans.
Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, il aurait fallu que je rencontre Bonaparte. Peut-être que s'il m'avait dit il faut avoir la force d'âme de chasser la mélancolie, c'est ce qu'il écrivait à Joséphine, c'est ce qu'il lui disait. je ne sais pas si j'aurais obéi, s'il m'aurait contaminé, mais lui avait cette force d'âme assez admirable de pouvoir mettre les soucis conjugaux parfois de côté, même si il était envahi par la tristesse quand il est en campagne en Égypte au début de son mariage et qu'il apprend que sa femme le trompe et qu'il écrit ses lettres enflammées et pleines de larmes, quand même il continue à se battre et il continue à mener sa troupe vers la victoire. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, cette force-là, pas se laisser s'abandonner, aussi grand soit le chagrin, à son chagrin.
Est-ce que vous pensez que Joséphine, quand même, aurait pu faire quelque chose pour le retenir ? Ou est-ce que vraiment il s'était pris dans une spirale
Ah non, je pense vraiment qu'elle a tout fait. Hein.
Ouais.
Vraiment tout, qu'elle abusait des larmes et du rose à joues, comme il dit, et des toilettes et de tout. Elle a vraiment tout fait, mais la décision a été prise. D'ailleurs, il commence comme Hollande, il commence en disant « j'ai décidé ». Bon, voilà, aux Tuileries, « j'ai décidé ». Il a décidé, la décision a été très longue à s'imposer à lui-même, et il a décidé, comme on disait, pour raison d'État. Il lui fallait un héritier pour construire sa dynastie, et... C'est difficile pour Joséphine, mais c'est peut-être plus acceptable parce qu'il n'aurait pu dire pas pour une autre femme. Il n'y a même pas d'autres femmes à l'époque. Il va d'ailleurs essayer d'épouser la sœur du tsar de Russie. Il va d'abord, la Russie, c'est plus intéressant que l'Autriche. Il va essayer, puis... comme il avait fait la guerre, c'était plutôt son ennemi, le tsar va lui refuser la main de sa sœur. Donc il va jeter son dévolu sur Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche. Et là, il acceptera. Mais on ne peut pas dire, d'ailleurs lui-même dira de manière bien cavalière, parce qu'il pouvait être aussi grossier et cavalier, j'ai épousé un ventre. Bon, ce n'est pas très flatteur pour une femme d'être traitée de ventre.
Et, elle appelait aussi son Achille.
Non, ça c'est le ventre, et c'est Marie-Louise.
Ah, Marie-Louise,
et, oui. Et c'est Joséphine qui appelait Bonaparte mon Achille. Mais enfin, elle l'appelait plutôt toujours Bonaparte. D'ailleurs, des fois, il s'énervait, mais pourquoi tu m'appelles tout le temps Bonaparte ? Ou mon Achille. Donc le ventre, c'est la pauvre Marie-Louise, oui, qui va arriver et qu'il aimera bien, parce que c'est une femme très bien qui finira aussi par être subjuguée et par tomber amoureuse, mais qui n'est pas la passion, qui ne suscitera jamais la passion qu'a suscité Joséphine. D'ailleurs, quand il dictera ses mémoires à Sainte-Hélène, à Lascaz, il dira « Joséphine est la seule femme que j'ai aimée ».
Est-ce qu'il y a aussi des détails que vous avez dû modifier au cours dans la biographie de Joséphine pour que le récit tienne ? Ou est-ce que tout ce que vous racontez, en dehors des zones d'ombre bien sûr, tout est vrai ?
Écoutez, tout est vrai, sauf évidemment le rêve. Je me mets dans sa tête. Comme je voulais raconter la mort de Joséphine, elle ne peut pas raconter sa mort. Donc, j'ai imaginé que Bonaparte et elle, j'ai imaginé deux rêves, celui de Bonaparte et celui de Joséphine. Et comme ça, j'ai pu raconter leur fin. Et j'ai pu raconter aussi, mais il ne faut peut-être pas tout raconter, la dernière nuit de Bonaparte avant de partir à Sainte-Hélène, il reviendra à la Malmaison. Il va tout renifler, il va rester là tout seul.
Et est-ce qu'il y a des points dans la vie de Joséphine qui vous ont particulièrement, j'allais dire, déplu ou que vous avez détesté ?
Je juge pas Joséphine. Je me fais pas non plus son avocat. J'essaie juste de comprendre une femme, un être humain avec ses faiblesses. Elle est moderne en ce qu'elle ses manières de réagir. C'est une femme sexuellement libre finalement, et il y en avait pas tant que ça à l'époque. C'est une femme qui essaie de se débrouiller, qui se retrouve veuve avec deux enfants, sans un sou, et qui, c'est vrai, épouse peut-être Bonaparte au départ, poussé par Arras, sans qu'il soit son grand amour. Donc en cela, on pourrait la critiquer, mais enfin bon, qui va jeter la pierre et on peut la comprendre. Puis en plus, elle va finir par l'aimer, mais elle n'était pas. Je pense que son cœur n'était pas disponible à rencontrer un grand amour. Mais elle va se marier avec, c'est aussi très séduisant, un homme qui vous aime autant. Il était impressionné par elle, plus qu'elle ne l'était par lui au départ, parce que c'est une femme de l'Ancien Régime. C'est une femme très élégante, une femme qui sait recevoir, qui lui fait une maison douillette, élégante, une femme qui connaît les hommes politiques plus que lui et qui les recevra. Et on dit que c'est elle qui a demandé à Barras de lui permettre de diriger la campagne d'Italie. Donc il lui doit beaucoup, et c'est probablement pour ça, alors que déjà il savait qu'elle était stérile sûrement, probablement à cause de la peur devant l'échafaud. Et donc il sait qu'il lui doit ça, contre la vie, le couronnement, contre la vie de sa famille, contre la vie de ses sœurs et de sa mère, qui était fort jalouse d'elle. Mais aussi, il est ému parce que les soldats adorent Joséphine. C'est brave qu'il aimait tant. Et le peuple aussi aimait Joséphine. Alors que Marie-Antoinette n'était pas aimée par le peuple. Ça veut dire aussi quelque chose. Joséphine avait cette proximité avec les gens. Elle prenait du temps à les écouter. Elle était extrêmement généreuse. Elle donnait ses bijoux pour Noël aux dames qui travaillaient pour elle. Elle leur faisait faire des inscriptions sur des petites bagues. Elle était très, comment dirais-je, attentionnée.
Une question que je me pose souvent aussi quand je lis un roman historique, on pourrait dire que c'en est un, même si c'est pas trop...
Évidemment, l'histoire est là.
L'histoire est là.
Je ne l'ai pas inventée.
Est-ce que ça n'a pas été frustrant avec toute la documentation que vous avez pu accumuler, de devoir faire une sélection? Et parfois, est-ce qu'on n'a pas la tentation d'écrire une biographie classique?
Pas du tout. Je ne suis pas du tout biographe. Je serais bien incapable. Et puis, je serais là très frustrée, parce que ce que j'aime, c'est me mettre à la place de quelqu'un, c'est vivre sa vie, finalement. Je ne sais pas si tous les romanciers ont deux vies, mais moi j'en ai deux. J'ai la vie réelle, et qui serait impossible sans la vie imaginaire. C'est une double vie. Et cette vie imaginaire me permet de vivre plusieurs destins. Voilà, j'ai eu l'impression de vivre cette vie. J'en ai vécu bien d'autres. Dans Le silence des hommes, La mélancolie du dimanche, des destins inventés, mais qui m'amusait énormément, qui m'intéressait, qui m'aidait à comprendre aussi certains comportements dans l'attente. J'ai beaucoup souffert dans l'attente, et je me suis beaucoup amusée en même temps, parce que je regardais avec humour. Je pensais à mes amis qui attendaient des hommes, par exemple, et à chaque fois je leur dis, mais ça va pas, non, mais on n'attend pas, c'est pas, faut pas. Et je me suis mise dans la peau d'une femme qui attend un homme dans un café et qui imagine que l'homme vient pour elle, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais été à l'époque interviewée par Luc Ferry, qui m'a dit, mais vous avez réinventé, ou c'est une théorie comment s'appelle ce philosophe, pardon, le nom va me revenir, mais c'est pas l'important. Il me dit, je vous résume la théorie, c'est pas l'homme qui crée le désir, c'est le désir qui crée l'homme. C'est-à-dire, on invente parce qu'on a envie de désirer l'objet ou l'autre. Et c'était un peu le résumé de mon livre. Et alors, ça m'a évidemment amusée, flattée, mais ça, vous voyez, en se glissant dans des destinées comme ça, on finit par comprendre, par réinventer parfois des théories. Ce philosophe qui, là, pour l'instant, m'échappe. Désolé, c'est le trac.
Ça va revenir. Si vous voulez bien, j'ai repéré un petit passage que j'aimerais bien vous entendre lire parce que je trouve que c'est très important à différents titres. C'est celui-ci, c'est quand... quand elle se pose la question par rapport au divorce et par rapport notamment au mot divorce. Alors c'est terrible parce qu'il y a ce côté procédurier qui va à l'encontre justement des sentiments qu'elle peut ressentir à ce moment-là et ça échappe grandement à
pardon, à tout le ça. Philosophe c'est Spinoza.
Spinoza,
excusez-moi.
Bravo. Oui,
bon, oui, alors dites-moi voilà, où je commence.
Ici, jusque-là. Si vous voulez bien.
Oh, c'est beaucoup. Non. Je ne sais pas si je saurais lire. Et puis en plus, je suis très myope, donc je mets proche. Le Senatus consulte fut adopté par le Sénat par 76 voix contre 7 et 4 abstentions. L'article 1er annonçait « Le mariage contracté entre l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine est dissous. » Le mot de divorce ne fut jamais employé officiellement. Tu savais bien qu'un tel acte contreviendrait à la fois au Code civil et au statut de 1806. L'article 7 des statuts l'interdisait pour les princes de la famille impériale. J'avais 46 ans. L'article 277 du Code, dicté par toi en d'autres temps, interdisait de prononcer un divorce si l'épouse était âgée de plus de 45 ans. Le pape aurait refusé une demande d'annulation. Nous étions dissous. Désagrégé, comme un corps plongé dans l'acide. C'est à tort que ton entourage et toi-même prononciez le mot divorce. Notre divorce n'était pas possible, comme il était impossible d'annuler à Rome notre mariage religieux du 1er décembre 1804, célébré en pleine nuit par le cardinal Fraîche pour conforter la cérémonie secrète et si romantique bien que nulle du lendemain de nos noces civiles. Qu'importe les articles du Code civil, tu les rédiges. Qu'importe le pape, tu n'as pas voulu de ses mains pour te couronner empereur. La machine administrative, les documents, les formalités sonnaient la fin de notre amour. J'avais signé, Bonaparte. Notre aventure était bien finie. Tu continuerais ta route sans moi. Tu pleurais. Les membres de ta famille n'en revenaient pas. Ils se sont retournés. C'était beaucoup pour moi, les larmes de l'empereur.
Voilà, je trouve que c'est un passage, un des passages clés en tout cas de votre roman. Ce côté froid.
Ah, mais il n'est pas du tout comme ça, mon roman. Ça, c'est juste le côté un peu obligé, procédurier.
Un peu spectaculaire, oui.
Mais je me suis libérée de ça parce qu'au fond, ça m'intéresse moins. C'est juste, voilà, c'était ça les règles. Normalement, il ne pouvait pas divorcer d'elle parce qu'il avait fait une loi pour. Enfin, un article, il avait fait rédiger, pardon, un article du Code civil pour protéger les femmes et de. Plus de 45 ans et divorce de la sienne qui a 46. C'est pas de chance. Donc, finalement, elle aurait pu ne pas divorcer, elle aurait pu l'embêter. Enfin, bon, il avait tous les pouvoirs. Il faisait asseoir le pape, il lui disait, il le faisait déplacer de Rome, il lui disait, mais non, mais vous n'allez pas me couronner. Enfin, c'était insensé. Il exigeait, quand son premier mariage, il arrivait avec 2 heures de retard et il dit au maire, mariez-nous. Et le maire est déjà parti parce qu'il avait trop sommeil. Alors il prend quelqu'un d'autre, trop jeune d'ailleurs, pour le marier. Tous les mariages sont caducs. Hein. Le premier parce que c'est pas le bon employé de mairie qui les a mariés, parce qu'il s'est rajeuni, il s'est vieilli, elle s'est rajeunie. Le second parce que le pape devait les marier religieusement, il a préféré prendre son oncle, le cardinal Fraîche, donc caduc. Et le troisième et le deuxième avec Marie-Louise, ça n'existe pas. Donc l'enfant... en rêver était en fait un bâtard parce que il était normalement il demeurait marié avec Joséphine dont le mariage était aussi caduque parce que c'était long qu'il les avait mariés religieusement et pas le pape. Bon.
Puis lui-même l'a changé de nom d'ailleurs, on connaît sous le nom de Bonaparte mais oui. Ce n'est pas son vrai nom.
Non, il s'appelait Buonaparte et il s'est francisé donc voilà, mais ça c'était le mariage aussi avec Marie-Joseph Rose de Beauharnais qui le francisait et c'était aussi pas mal pour lui. Enfin, c'est ce qu'il voulait.
quand on parle de vous, on voit aussi votre lectorat, on vous associe généralement à un lectorat féminin.
Ah, mais on m'a dit tout le contraire hier, voilà. J'étais pour une conférence à Bruxelles et le journaliste m'a dit c'est un livre pour les hommes, ils vont enfin comprendre les femmes. Bon.
Et oui, je vois que dans cette salle, il va y avoir à peu près la moitié, c'est une bonne surprise. Mais comment vous justifiez ça, justement
ou, Mais alors, je crois que vous avez tort. Écoutez, un jour, je reviens d'une conférence et je croise un homme politique, je ne dirai pas son nom, qui était en train de lire Le silence des hommes. Alors, j'avoue que j'étais un peu rougissante. Et alors, quand il m'a vu, il est venu me dire... Donc, vous voyez, là, c'était une surprise quand même. Et ce n'était pas le moindre. Lisez Le silence des hommes. Oui. Enfin, de toute façon, il paraît que les femmes lisent plus que les hommes. Donc, c'est peut-être une raison.
Ou ils lisent en secret, peut-être.
Peut-être qu'ils ne lisent pas les mêmes livres. Mais j'aime pas les généralités.
Moi, c'est vrai, il faut s'en
méfier. C'est idiot, les généralités. Non, il y a des hommes qui lisent, il y a des femmes qui lisent. Il y a des hommes qui ne lisent pas, il y a des femmes qui lisent pas.
J'aimerais bien me livrer un petit jeu pour finir.
Ah,
une sorte de petit question. C'est la petite surprise, je vous ai dit. Hein, que...
Ah bon ? Non, vous ne m'aviez pas dit. J'avais le droit à une surprise, mon Dieu.
On va se livrer.
On a le droit de ne pas répondre ?
Vous pouvez, oui. Vous avez le droit à deux jokers.
Bon, ok. Voilà.
Alors, on va faire une sorte de petit questionnaire de Proust. Il y a 12 ou 13 petites questions.
Oh, pauvre.
Alors...
Alors,
si vous étiez un personnage historique,
je ne serais pas Joséphine parce qu'elle a trop souffert, même si sa vie était passionnante. J'aurais peut-être au début, quand on m'a dit que je serais plus que reine, c'est intriguant, mais la suite me plaît moins. Qui je serais, mais toutes les femmes que j'admire beaucoup, Virginia Woolf est en tête. La mélancolie la submerge, donc non, mais peut-être un mélange de Virginia Woolf et de Vita Sackville-West, voilà. Virginia disait à Vita, tu as mis ton talent dans ta vie et moi dans mon œuvre. Voilà, si on peut mettre, et comme Jean d'Ormesson, qui est un grand ami et que j'aime beaucoup, qui a mis lui son talent dans sa vie et dans son œuvre. Alors là, je vous ai trouvé... Jean, voilà. Jean est un homme très heureux que j'aime beaucoup et il est arrivé à mettre son talent dans sa vie et dans son œuvre et je trouve ça formidable.
Alors justement, c'est l'objet de ma deuxième question. Si vous étiez un romancier.
Un romancier ? Ben voilà.
Woolf.
Je vous ai répondu. Woolf avec...
un mélange.
Avec l'amour de la vie qu'avait Vita. Voilà, d'accord. Un petit mélange. Si elle s'était laissée un petit
Vita
peu
Woolf.
Plus influencée par Vita Sackville-West.
Et si vous étiez un roman ?
Un roman. Alors, un roman... j'ai une grande passion pour Madame Bovary, évidemment, de Flaubert. C'est un chef-d'œuvre. Voilà.
Si vous étiez une devise, une expression ?
Une expression... Va où ton cœur te porte.
Ah.
C'est tellement important. À chaque fois, j'ai envie d'écrire sur le choix, parce que le choix, parfois, me traumatise. Je ne sais pas, je suis là, je suis balance ascendant balance, il faut dire. Mais Paul Valéry disait « Choisir n'est pas tant élire qu'éliminer ». Et c'est vrai que choisir quelque chose, c'est éliminer une autre solution. Alors, on a envie des deux. Alors, le choix, voilà, va où ton cœur te porte, c'est toujours une bonne solution.
Oui,
quand j'ai démissionné de carrière de notaire que je devais avoir, c'était très difficile, j'avais étudié pour, et finalement, j'étais là où mon cœur m'a porté.
Et finalement, cette expérience que vous avez eue dans vos études de droit, est-ce que ça vous aide, d'une certaine façon, dans l'écriture de vos romans ?
Pas du tout.
Pas du
ça
tout.
N'a servi
vraiment
à rien.
Ça de côté, on
et
oublie.
Je déteste les contrats, je ne les lis même pas, je les signe sans les lire. Ce qui, bon, je déteste ça. Non, non. J'ai pas l'impression. Je connais quelques mots juridiques, mais franchement, je trouve ça très très aride, très utile. Hein, et j'ai une grande admiration pour ceux qui nous protègent. Mais non, c'est à part le code Napoléon. Mais c'est pas mon livre de chevet, je dois vous dire.
Si vous étiez un animal.
Oh, mon chien, il est tellement gâté. C'est mon chien qui, quand je travaille, vient près de moi.
Voilà, qui n'aime que vous.
En plus, voilà, oui. C'est génial. C'est un chien difficile, elle a 17 ans et elle est très agressive avec le reste du monde, sauf avec moi. Elle me préfère à tout le monde, c'est génial.
Alors, si vous étiez un film.
Un film. Un film de Sofia Coppola qui s'appelle Love in Translation.
Lost in Translation.
Je trouve formidable. J'aime bien, moi, le côté microscope. On prend. Là, vous me dites toute l'histoire. C'est impossible. On ne peut pas analyser toute l'histoire. Mais là, elle analyse une rencontre juste une nuit, 24 heures, dans un hôtel entre un homme d'affaires et une femme. Et je trouve que c'est admirablement fait, capté. J'aime bien. On ne peut pas raconter très bien toute une vie, c'est difficile. Donc, il faut se limiter soit à un moment de la vie, soit, enfin pour moi, à quelques années. Sinon, il faut y consacrer sa vie et écrire plusieurs tomes. Mais j'aime bien le côté caméra rapprochée, analyse.
Si vous étiez une musique ou une chanson.
Moi, j'ai des goûts nuls pour la musique. Non, ah, bon, je peux aimer, j'aime bien la musique de mes enfants. Happy, c'est génial. J'ai écouté l'autre jour en rentrant dans leur chambre. J'ai trouvé ça vraiment très gai. Non, mais plus sérieusement, je serai l'introduction de Parsifal. J'ai été l'écouter à Salzbourg et j'avoue que. On a les larmes aux yeux, là, c'est extraordinaire. Le début de Parsifal est un grand moment de musique. Wagner, bien sûr. Et sinon, pour écouter, dans mon téléphone, il y a du jazz, et genre Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, voilà, ce genre-là. Genre Inforgettable, voyez, des trucs un peu guimauve.
Vous écrivez un petit peu en musique
Jamais, dans le silence absolu. J'ai vraiment besoin du silence pour essayer d'écouter la musique des mots, de la capter.
Si vous étiez un tableau ou une œuvre d'art, quelle qu'elle soit.
Il y a beaucoup d'œuvres d'art que j'aime. J'aime l'art contemporain, j'aime Kiefer, j'aime Basilitz. Mais j'aime aussi, évidemment, des peintures plus classiques. J'aime les impressionnistes. J'ai écrit un livre sur un peintre et je n'aime pas le tableau. Mais donc, j'ose même pas. Non, parce que le tableau était choquant et que j'ai voulu essayer de comprendre la relation entre Courbet et Johanna Iferman pendant les séances de pose de L'Origine du Monde. Je me promenais, comme souvent, quand j'ai fini d'écrire dans des musées, et j'ai vu toute une série de gens effarés en regardant un tableau, et je me suis dit, j'ai fait le tour, mais quel tableau ils regardent ? Et c'était L'Origine du Monde. Et je me suis dit, mais comment une femme peut poser dans cette situation-là ? Quelles étaient leurs relations ? Et donc, j'ai écrit un livre sur ce moment-là, pendant ces séances-là. Donc, j'ai essayé de mettre dans la tête de Courbet. Ce n'était pas évident, parce que c'était un homme un peu grossier, mais extrêmement talentueux, évidemment, et de Johanna Iferman, cette femme qui accepte de poser dans cette position.
Quelle est votre principale qualité ?
Je suis gentille, je vous jure.
Ça va peut-être de pair avec mon autre question, quel est votre principal défaut ?
Aussi, peut-être, aussi, parce que parfois c'est un défaut, il faut se méfier, tout ça. Mais ça, je ne sais pas faire, c'est pas grave. Ouais. Il vaut mieux après être un peu déçu, mais voilà. C'est encombrant de se méfier, c'est.
Y a-t-il un don que vous voudriez avoir ?
Le don d'ubiquité, comme ça je n'hésiterai plus. Je pourrais être à droite et à gauche, je pourrais être.
Vous n'aurez pas eu à subir les désarrois ?
Oui, et puis. Oui, aussi.
Oui. Et enfin, alors on imagine que tous les mots disparaissent. Est-ce que vous, il y aurait un mot que vous voudriez sauver?
Oh,
S'il ne devrait rester qu'un seul mot de la langue française?
c'est pas dans le dictionnaire de Proust, là, comme un seul mot, bienveillance.
C'est joli, je pense qu'on va rester là-dessus.